Quiet Hearing. Les directeurs m'avaient confié d'autres missions et qui, au bout d'un moment, commençaient à peser au quotidien. Et donc, il suffit de lever le doigt. Je mérite mieux, ou en tout cas, il faut répartir la tâche parce que j'y arrive plus, surtout. et qu'à un moment donné, le boulot est mal fait.
Bonjour, bonjour, bande de zoomers. Et comment ils vont, mes woke, à l'heure du goûter, là? Oui, bah, j'essaie des trucs, Cyril. Manon, vous rigolez.
J'ai le droit de rater.
Il faut bien se renouveler au bout de 3 jours.
C'est pas si facile
que ça de remplacer une légende vivante, du PAF, au pied levé. Mathieu Noël a posé sa semaine, vous l'aviez compris. Et si vous l'aviez vu lundi, son mètre 90, tout courbaturé, ses yeux de cocker, en train d'appeler sa femme.
Mais oui, mon amour, l'équipe va me commander un taxi et je rentre illico.
C'est vrai.
Je suis au bout du rôle, j'arrive.
Tel colonel, le chien d'Hélène Gâteau, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur.
Ah oui, hein.
Il avait sa truffe toute froide. Et donc, qui a repris sa charge de travail? La carrière, lui et Mariani, les trois mousquetaires au service de Sa Majesté et du public, vous, les auditeurs. Bienvenue dans Zoom Zoom Zen, donc l'émission qui décortique une notion, un phénomène.
Aujourd'hui, c'est une plongée dans le monde de l'entreprise et du management qu'on vous propose.
Ici, à la COGIP, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers.
Je prends un exemple totalement fictif. Jonathan décide de quitter son job. Bosser dans le public, c'est bien joli, mais ça ne paye pas grand-chose. Il veut palper plus, donc il retourne chez M6, officiellement pour une quête de sens.
Un film d'enfant à la Cité des Anges, dans Enquête exclusive.
Oh,
son poste est libre, les prétendants ne manquent pas, mais plutôt que choisir, la grande patronne décide de dire « Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Tu veux le poste, Coco ?» Car oui, elle dit Coco, elle est un peu old school, la grande patronne. « Eh bien, prouve-moi que tu as la carrure. Donne tout, tu fais ton boulot, plus celui de Jonathan. Et si t'es bon, t'auras le job. » Enfin, peut-être. Et niveau argent, comment on fait? Rien. On fait rien. Tu ne gagnes pas plus. Fais tes preuves, au revoir, Coco. Est-ce que c'est pas génial, ça?
Je suis pas sûre que ce soit si génial que ça, Cyril. Enfin, peut-être pour vous, vu les méthodes managériales qu'on subit au quotidien avec Quentin.
Au quotidien.
En tout cas, ça porte un nom, le quiet hiring. Encore un terme en anglais, encore un terme en ing. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Zoom Zoom Zen garantit 100% Mathieu Noël. 100% sans Mathieu Noël. C'est parti. Et bonjour Damien Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC et chercheur associé à la chaire Management et Santé au Travail à l'Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble. Vos travaux portent notamment sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Vous intervenez aussi dans les entreprises sur des questions liées à l'amélioration des pratiques de management, de gouvernance et d'organisation au travail. Vous allez aider Cyril. Vous allez donc tout nous expliquer sur ce quiet hiring.
Ce qu'on appelle une pratique fourbe, d'autant plus qu'elle est assez méconnue. Justement, j'imagine que ça n'a pas été facile dans la street, mon cher Quentin.
Vous dites encore street?
Oui,
on va dire rue. Alors dans la rue, le terme est en effet un peu nouveau, un peu anglais aussi. Alors, par contre, la méthode, elle parle à pas mal de gens. Je me suis incrusté sur la pause déj des salariés de grosses boîtes, entre le 9e, le 10e à Paris, et j'ai discuté monde de l'entreprise comme un vrai influenceur LinkedIn. Vos réactions avant 16h30 dans ce micro trottoir complètement à la rue.
Et puisqu'on parle de management, Manon, j'imagine que vous allez parler de celui qui est votre soleil quotidien, celui qui est l'incarnation du management bienveillant. Bref, que la personne à suivre, si on s'intéresse au management, c'est moi.
Non, mais par contre, le jour, on fera une émission sur le management totalitaire, livre que vous avez sur votre bureau.
Exact.
Je vous promets que ce sera vous. En attendant, aujourd'hui, je vais vous présenter le patron d'une des plus grosses entreprises de divertissement américaine, qui a une technique managériale un peu particulière.
À 16h30, on retrouvera l'enfant de cœur le plus célèbre des Pyrénées, Pierre Courat, qui a d'ailleurs passé sa journée à critiquer, à réécrire le Zoom Zoom Test que Gérald Arnaud, l'auteur de Mathieu Noël, avait prévu. C'est vous dire s'il peut être exigeant. Et cette barbe de viking d'Harold Barbet viendra nous faire rire sur le monde de l'entreprise, lui qui n'a jamais travaillé. Mais d'abord, Damien Richard, avant que Cyril nous dise d'où sort ce quiet hiring, ce recrutement silencieux, en bon français, ça touche tous les secteurs du monde du travail ou c'est ciblé?
C'est plutôt ciblé. C'est un peu une réponse, en fait, le quiet hiring à un truc qui s'appelle le quiet quitting. Ce qui est le fait que c'est un peu la réponse des RH du berger à la bergère. C'est qu'il y a de plus en plus, notamment depuis le Covid, des salariés qui font le minimum. Ce qu'on appelait autrefois la grève du zèle. Eh bien, une façon RH un peu élégante, c'est de dire, mais finalement, ce qu'on veut dans les organisations, c'est des gens qui contribuent. Et donc, les gens qui vont le plus contribuer vont être les gens qui vont avoir les postes d'influence ou les postes les plus intéressants. Donc, c'est pas que négatif. C'est une sorte de recrutement tranquille, de recrutement silencieux et aussi de recrutement budget base zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit un DRH, qu'on discute avec un DRH dans le public ou dans le privé, un de ses enjeux principaux, c'est quoi ? Le contrôle de la masse salariale. Donc là, il va falloir faire un peu plus, un peu mieux, avec les mêmes ressources, ou même parfois avec un peu moins de ressources.
Ouais. Alors lui, il a bien compris le truc, un salarié en moins, on fait reposer la charge de travail sur tous les autres pendant une semaine, et ça passe crème en faisant l'économie d'un animateur de remplacement, tout ça pour aller failloter au prix de Sibyl Veil, à la soirée de France Inter. Vous savez, Cyril, il va arriver, il va dire, et cette semaine-là, on a tenu les rênes, madame la présidente. Comme il n'entendra jamais sa réponse, sa voix étant couverte par la musique, l'échange s'arrêtera là-dessus. C'est vrai, elle a une toute petite voix, notre présidente. Bref, tu m'étonnes qu'il puisse répondre à cette question qu'on adore. Cyril, le quiet hiring, eh bien, d'où ça sort ?
On avait fait le quiet luxury, voilà donc le quiet hiring, termes qui n'ont rien à voir. En fait, ce quiet hiring forme une sorte de trilogie, comme celle du parrain, mais sans Marlon Brando, sans la mafia, et dans le monde du travail, bref, ça n'a rien à voir avec le parrain. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour rien. Cette trilogie, c'est le quiet quitting, le quiet firing, et donc le quiet hiring. Le premier, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est l'art pour un salarié de ne plus rien foutre à son boulot, mais sans avoir l'air d'y toucher. Le deuxième, c'est la réplique des employeurs, l'employeur qui veut pousser son salarié à la démission.
Et donc, notre petit troisième.
Eh bien, sous vos yeux ébahis, le quiet hiring, l'embauche silencieuse. Je vous explique la situation, un poste se libère, le boss le fait miroiter à un de ses salariés, il lui dit qu'il doit faire ses preuves, le salarié donne tout, il fait donc ce boulot actuel, plus celui qu'il aimerait avoir, et tout ça sans que la boîte ne lui donne ni le titre, ni le salaire. Alors, si on veut voir le bon côté des choses, c'est une manière de favoriser la promotion interne, sauf que si la personne n'est jamais officiellement promue, ça casse un peu la promesse. Quant à savoir d'où vient ce terme, eh bien, de personne en particulier, pas plus de date d'apparition officielle, le quiet hiring, c'est comme tous ces mots qui parlent du travail et qui fleurissent en ce moment à tout bout de champ. Quiet quitting, par exemple, a émergé sur TikTok il y a 2 ans, quelques mois avant que quiet hiring n'en fasse autant. Cette fois, a priori pourtant, ce serait d'abord sur le site américain Inc. pour parler des méthodes de management de Google. Alors nous, on a une heure pour comprendre tout ce que cela veut dire vraiment.
Merci Cyril. Est-ce que vous en savez plus, vous Damien Richard, sur l'origine de ce terme ? Est-ce que comme le quiet quitting, c'est encore une énième tendance TikTok ?
Non, je ne sais pas, je ne suis pas trop sur TikTok. Alors, ce quiet hiring, c'est un recrutement tranquille, un recrutement silencieux. Mais effectivement, on peut le raccrocher ça à Google, mais en fait, c'est quelque chose d'assez ancien. C'est vraiment cette idée que plutôt que de passer une annonce, qui est un peu une forme de communication, montrer qu'on a une croissance, qu'on recrute, c'est tu vas prendre un stagiaire, prendre un alternant, et voir si il va prendre sa place, il va être acculturé à tes us et coutumes, il va créer de la valeur. Et après, tu vas lui donner le job. Parce qu'il le...
Mais c'est un peu sournois quand même comme méthode.
C'est pas forcément sournois. C'est sournois dans un pays de Descartes où il faut annoncer tout, dans un modèle bureaucratique. Mais en fait, effectivement, en Europe du Nord, en Angleterre, ça se pratique depuis des décennies. C'est d'abord, vous allez à Londres, vous essayez de faire le travail, et si vous faites le travail, on vous embauche. C'est aussi simple que ça, parce que est-ce que la meilleure façon de recruter quelqu'un, c'est de faire un entretien de recrutement ou de lui demander de faire un CV qui aujourd'hui de plus en plus est fait par une intelligence artificielle générative et qui est après trié par une intelligence artificielle générative. Est-ce que ça, c'est une façon plus efficace de recruter que d'ouvrir le poste, de faire que la personne fasse ses preuves et qu'après, elle fasse le job.
Mais donc, on est bien à un tournant. C'est lié à quoi ? Vous parliez du Covid. Il y a vraiment une césure dans le monde du travail à ce moment-là ?
Il s'est passé quelque chose avec le Covid. Il s'est passé quelque chose qui est, on est arrivé à faire tourner le pays avec des gens en télétravail. C'est-à-dire, aussi, ça nous a amené à être en face de la mort. Et la mort, ça amène à la question du sens. Et donc, ça a questionné les gens sur les fameux bullshit jobs. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que, finalement, le pays tourne très très bien sans moi. Et notamment, tous les consultants, nanana. Et là, il y en a certains, ils ont dit, ça c'est... c'est quand même fort de café. Ouais. Et donc moi, si jamais j'allais finalement faire un truc qui me plaît vraiment, comme des crêpes ou des pizzas, plutôt que de mon boulot, de faire des PowerPoint qui ne servent pas à grand-chose.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Zoom aujourd'hui sur le quiet hiring où quand un manager vous fait miroiter une promotion, vous demande de faire le job sans forcément vous donner ce job au bout du compte. C'est cruel, mais c'est une nouvelle méthode de management qu'on décortique avec l'enseignant-chercheur Damien Richard. Damien, à quoi elle répond cette méthode de management ? On a commencé à parler tout à l'heure de budgets qui sont stables, voire qui baissent pour les entreprises. C'est juste ça ou est-ce que ça cache autre chose ?
cette pratique, elle répond à aussi un besoin pragmatique des organisations, qui est de fonctionner dans un environnement qui est volatile, incertain, complexe, ambigu, et que la mode de faire un simple entretien, ça marche pas très bien. Il y a beaucoup d'erreurs de recrutement comme ça. Alors que si vous pratiquez quelque chose qui se pratique, mais là aussi depuis 30 ans, qui est l'assessment, c'est-à-dire que vous voulez recruter un nouveau chroniqueur, vous allez lui laisser faire une chronique. Il fait une chronique et la chronique se passe bien. Il va continuer de faire une chronique. Et puis vous allez petit à petit une chronique, vous allez lui donner 20 minutes d'émission, et puis une heure d'émission, et puis deux heures d'émission, et puis une émission.
Non, ça n'arrivera pas, une heure d'émission.
Mais contractuellement, comment ça marche alors? On enchaîne des contrats, il n'y a pas de fiche de poste.
Alors, oui, la fiche de poste, vous voyez, on sait bien que ça sert un peu au RH de classer les postes, notamment dans le public. Mais dans le privé, on sait bien que, et ça c'est les ergonomes de la langue française qui nous disent ça, c'est qu'il y aura toujours une différence entre le travail prescrit dans la fiche de poste, et le travail réel, qui va toujours déborder le travail. Et donc, en fait, effectivement, c'est quelque chose qui s'ancre, c'est une pratique qui s'ancre dans la réalité du travail, dans la réalité de l'activité. Si vous savez faire le travail, même si vous n'avez pas les diplômes, et ça, c'est pas très français, même si vous n'avez pas les diplômes, même si vous n'avez pas fait l'école de journaliste ou l'école de commerce, mais que vous savez faire le travail, on va vous donner le travail.
Mais comment ces managers, ils présentent l'idée? Parce que là, ce que vous dites, on a un peu l'impression qu'ils jouent, entre guillemets, aussi avec l'employé en question.
Ça me plaît ce que vous dites, ils jouent. Oui, il y a une mise en jeu du travail. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'une entreprise à Grenoble, qui est une entreprise d'informatique. Qu'est-ce qu'ils font pour recruter? Ils demandent à une personne de venir avec un peu de code, et pendant une demi-journée, ils développent du code avec elle. Ils voient s'ils s'entendent avec cette personne, ils voient si le code est bon, si le code est élégant, s'il marche bien, et si ça fit avec l'équipe. Si la personne passe bien cette, entre guillemets, épreuve ou ce type d'activité, elle va être recrutée. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus par cooptation.
Je vais à l'exemple que vous donnez avec quelqu'un qu'on fait venir de l'extérieur, c'est une chose. Mais quand on parle d'une promotion interne, s'il y a l'employé X qui veut le job de Y qui n'est plus là et qu'on lui dit, tu continues à faire ton job, mais il faut aussi que tu fasses le job de Y en plus du tien et que tu montes tes preuves. Comment on fait à ce moment-là? Parce que là, on voit bien qu'on lui fait multiplier ses tâches de travail et on lui fait miroiter quelque chose qu'il n'aura pas nécessairement. Ça peut être plus compliqué, là.
Oui, c'est un peu ce qui vous arrive en ce moment. Mais...
on ne fait pas miroiter, vous savez.
Non, mais on ne fait pas miroiter. Simplement, effectivement, nos organisations sont de plus en plus liquides. Parce qu'il y a un environnement volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, effectivement, vous allez faire le job. Et pendant un temps, vous allez faire le job en plus. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être un risque de burn-out, qui d'ailleurs, le burn-out, c'est un terme de syndrome d'épuisement professionnel. Ça existait là aussi depuis 30 ans. On a mis un terme anglais et hop, d'un coup, les journalistes en parlent, etc. Non mais, c'est intéressant, ce côté, à la fois, on dénigre les Américains, mais dès qu'ils mettent un terme, qu'ils font du labeling, alors là, on est tout content et on se met à en parler.
Ah, nous, on est très contents, oui.
Mais voilà, vous voyez, on en parle. Et donc, ça met en visibilité quelque chose qui est fait depuis très très longtemps. Mais en fait, dans les organisations, quand vous avez une femme qui part, qui tombe enceinte, qui est enceinte et qui fait un bébé, vous pouvez dire, recruter à l'extérieur, mais vous pouvez aussi essayer de répartir sa tâche de travail sur différentes personnes, et la personne va prendre le poste. Et effectivement, de plus en plus dans les organisations, ça va se passer comme ça. Ou alors pour des arrêts maladie. Il y a beaucoup dans le public et dans le privé, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il faut quand même faire tourner la boutique. Donc la personne, elle va faire un peu plus de sa charge de travail. Si ça devient chronique, c'est dangereux. Mais si c'est pas chronique, c'est plutôt... Ça permet de faire tourner, d'avoir une continuité de service, faire marcher...
Mais pour le cas de la femme en congé maternité, elle est quand même censée revenir et reprendre son poste derrière.
Oui, ou un autre poste.
Ou un autre poste. En évoluant, vous dites?
En évoluant, oui, en évoluant. Parce qu'elle voudra peut-être revenir à 4-5e, parce que finalement, elle va s'apercevoir qu'un bébé, c'est chouette, j'ai envie de devenir entrepreneur. Voilà, elle peut aussi changer. Aujourd'hui, on est dans des carrières qui sont de plus en plus... qui sont plus des carrières, qui sont plus des parcours professionnels sinuosités.
Lui, c'est le premier de la classe de Zoom Zoom Zen, celui qui lève toujours la main pour participer, qui veut absolument être dans les bons papiers de son producteur préféré.
Et je le suis.
S'il découvrait qu'il était victime de Quiet Hiring, j'en suis sûre, il ne dirait rien. Trop content d'aider Cyril et Mathieu. Quentin, vous êtes allé embêter les salariés sur leur pause déj en leur parlant de cette notion de Quiet Hiring.
Dans un quartier d'entreprise au cœur de Paris, coincé entre le 9e, le 10e et le 18e, là où les grands open space sont nombreux, parfois vides par le télétravail, qui m'a-t-on soufflé se fait de moins en moins. Charlotte est juriste, elle découvre le mot du jour.
Je connaissais le quiet quitting, hiring. Je pense que c'est quand on embauche quelqu'un en... sans qu'il le sache.
Oui, c'est à peu près ça.
Ouais. Non, c'est intéressant parce que j'imagine que dans pas mal d'entreprises, on se rend compte, là où avant, elle allait directement embaucher quelqu'un, Là, elle va voir ce qui se passe pendant un moment si la personne n'est pas remplacée. Quelqu'un est licencié et puis elle va voir si ça marche quand même sans cette personne ou si on trouve des solutions alternatives. Enfin, c'est vraiment le cost-cutting poussé à l'extrême.
Le cost-cutting, le cost-killing, ouais. Encore des termes. Ouais, c'est les opérations de réduction de coûts et c'est vrai qu'on est plutôt sur cette tendance en ce moment. Lui, il se marre en voyant le micro, il a reconnu l'émission.
Bonjour.
Vous connaissez Zoom Zoom Zen ?
Oui.
Qu'est-ce que je dis à Mathieu Noël ?
Bonne année.
Bah alors, et la santé ?
Et la santé, bien sûr.
Santé, ouais.
Et la prévoyance aussi. On travaille dans une compagnie d'assurance. Donc,
ah ouais.
Santé, prévoyance, c'est le petit jeu de mots d'assureur. Ouais.
Merci Olivier pour cette blague d'assureur. On est content de l'avoir. On me l'avait jamais faite. Bon, on essaye avec lui le mot du jour.
Le quiet hearing. No. Non, je suis très mauvais en anglais.
Ah, ça s'entend pas, je vous assure Olivier. Je lui explique. Est-ce qu'il a eu l'impression d'en faire plus pour combler un poste ?
Plus d'une fois.
Ah oui.
On joue en fait sur, vous savez, la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance. On est très attaché, on est passionné sur une culture d'entreprise. Quand il y a une culture d'entreprise, forcément, on est engagé. Et parfois, ici ou là, les employeurs, les RH en profitent.
Ah oui, les entreprises jouent sur l'implication et la conscience professionnelle pour son entreprise, pour son poste aussi, pour son métier, son salaire. Lui, il l'avait déjà identifié.
Les directeurs m'avaient confié d'autres missions et qui, au bout d'un moment, commençaient à peser au quotidien. Et donc, il suffit de lever le doigt. Je mérite mieux, ou en tout cas, il faut répartir la tâche parce que j'arrive plus. Et qu'à un moment donné, le boulot est mal fait. Je pouvais pas être partout.
Elle passe devant moi en legging, écouteurs dans les oreilles. Elle est speed.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Juliette.
Juliette, vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je travaille dans une entreprise d'une agence de communication. Quiet Hiring.
Je lui explique ce que c'est et en comparaison avec Olivier, mon assureur, je lui pose cette question.
Est-ce que si demain on vous demande de faire l'effort, vous irez directement à la RH pour dire hop hop hop, par contre on
parle. Non, parce que j'aurais un espèce de seuil de tolérance où je me dirais bon allez vas-y là, il me demande de le faire, bon allez cette fois-ci ça passe. Et je pense que c'est peut-être ça qui crée l'engrenage, c'est que tout le monde se dit « bon allez, cette fois-ci je le fais ». Et en fait, au bout d'un an, on a fait des missions qui étaient bien au-delà de ce qu'on aurait dû faire, et voilà. Moi, c'est vrai, en plus, je suis jeune, donc je commence dans le monde professionnel, donc j'aurais peut-être pas l'assurance nécessaire d'aller voir les RH, ce qui est peut-être pas le cas de quelqu'un qui a 20 ans de plus, qui saurait dire « eh oh, c'est pas ma fiche de poste », mais à nos époques, on n'a plus de fiche de poste. Bref, ça, c'est un autre sujet.
Hey, mais c'est pas un petit sujet, on n'a plus de fiche de poste. Je vois Élise qui, sur un mobilier urbain en béton, a l'air épuisée. Elle est penchée sur son agenda. Que fait-elle ?
Je fais un point sur ma tête parce que je suis un peu perdue dans ce que je veux faire. Enfin, je suis en freelance et donc du coup, je réorganise un peu ma journée, tout ça.
Alors, en tant que freelance, elle voit très bien de quoi je parle.
Il y a beaucoup de marques qui font ça. Mais des fois, ils prennent des stagiaires, c'est encore pire. Des fois, ils prennent des stagiaires et comme ça, ils n'ont pas besoin de les payer et ils font le travail qu'ils ont besoin et après, ils partent. Ça, c'est pas hyper bien réglementé, je trouve, parce qu'il y a des boîtes qui, en fait, prennent des stagiaires à chaque fois, c'est deux mois et demi. Comme ça, ils n'ont pas besoin de les payer, ils enchaînent avec les stagiaires. Et il n'y a pas vraiment de contrôle lié à ça, alors qu'en soi, c'est illégal. Ils devraient prendre carrément un salarié à temps plein qui occupe le poste.
Alors, est-ce que l'astuce stagiaire, ça rentre dans la case quiet hiring ? C'est en tout cas bien de le noter, on y répondra. Ma dernière rencontre, elle est chic. En tailleur, Julie bosse pour une grande boîte.
Par chance, j'ai une énorme chance, c'est que ma boîte ne fait pas ça. On fait du recrutement en externe quand vraiment on a des gros points ou un gros sujet ou vraiment un job où il faut avoir des compétences et... Mais on ne fait pas monter en compétences une personne juste parce qu'il faut boucher un trou.
Ok, bah elle a plutôt de la chance, mais alors pourquoi d'autres le font ?
Parce qu'ils n'ont pas le temps et que les RH sont débordés et que trouver des bons profils, c'est de plus en plus compliqué. Malheureusement. Ah oui, bien sûr. J'en fais des recrutements et je peux vous dire que c'est de plus en plus compliqué.
Pourquoi ? Je peux vous demander ça ?
Parce que les gens partent du principe, leur mot préféré, c'est pas dans mon scope. C'est pas dans mon scope, c'est pas dans mon contrat. Donc la nouvelle génération est compliquée. Ils veulent tout et rien. Ils veulent tout de suite du télétravail, ils veulent en faire le moins possible, ils sont en cadre, mais ils veulent faire bien leurs heures, mais pas plus.
Et en même temps, s'ils ont été exploités quand ils étaient stagiaires, ils n'ont peut-être pas envie de remettre ça une fois arrivés dans le monde du travail. Intéressant, en tout cas, de parler du monde de l'entreprise en 2025 et voir les signes de ce quiet hiring.
Merci. Merci Quentin. On continue à parler du quiet hiring dans Zoom Zoom Zen. On a entendu Juliette nous parler de la disparition des fiches de poste. C'est vrai ça, ça n'existe plus les fiches de poste.
Là aussi, c'est pas quelque chose de neuf. Il y avait Dupuis, qui était un collègue qui avait écrit Lost in Management, qui disait ça. C'est, finalement, une fiche de poste, c'est quoi ? C'est un monopole.
Sur une activité.
C'est un monopole.
C'est un terrain à moi. C'est mon travail.
C'est mon travail. C'est un monopole. Un monopole rigide. Est-ce que vous pensez que le monopole rigide, c'est la meilleure façon d'organiser le travail ?
Ça peut être rassurant.
ça peut être très rassurant, ça peut être très sécurisant. Mmh. Mais est-ce que c'est adapté à un monde complexe, ambigu, où il y a plein d'incertitudes, où on a besoin d'agilité, de souplesse?
Mais vous parlez du côté des entreprises, là. Parce que le salarié peut avoir juste, lui, besoin de savoir ce qu'on attend de lui, ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire, ce pourquoi, au fond, il est payé.
Oui, mais pas que. Parce que je pense que beaucoup de salariés, aujourd'hui, ils ont besoin de quoi pour être heureux? Ils ont besoin de sens. Ils ont besoin aussi d'exprimer leurs talents et de déployer leurs compétences et pas d'être tenus à une fiche de poste. Moi, je dis souvent à mes étudiants...
Et d'argent aussi, quand même.
Et d'argent, mais bien sûr, d'argent. Et vraiment, quand on...
Bien sûr, maintenant.
Oui, et de plus d'argent, parce qu'il y a quand même une inflation forte et les salaires sont un peu... Que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est pareil. Mais, bien sûr. Mais ils ont aussi besoin d'une activité qui leur plaît. Et moi, j'aime beaucoup le concept de job crafting. C'est, là aussi, c'est encore un terme anglais, mais c'est-à-dire cette idée que tu es l'artisan de ton travail. C'est-à-dire que tu vas faire un poste à ta mesure. Tu n'es pas simplement un demandeur d'emploi quand tu cherches du travail. Tu offres des compétences et un talent. Pourquoi une entreprise recrute? Elle ne recrute pas pour créer de l'emploi. Elle recrute parce qu'elle a un problème. Elle recrute parce que ce talent-là va résoudre son problème et va créer de la valeur. Pour qui? Pour les clients, je dis souvent. Ce n'est pas l'actionnaire ou l'employeur qui paye. C'est les auditeurs, les usagers, les clients qui paye le salaire des salariés.
Moi, je trouve que vous en enjolivez un petit peu, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi aller travailler et avoir du temps à côté pour faire d'autres activités, du loisir, du sport, et ne pas tout tourner autour de leur vie professionnelle.
Oui, oui, oui.
Vraiment.
Et c'est de plus en plus vrai. C'est que les gens ont de plus en plus envie d'un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Parfois, ils vont avoir envie à des périodes de sa vie, de plus s'investir dans le travail, et puis, à des périodes, moi, comme par exemple, quand j'ai eu des enfants, j'ai carrément arrêté de travailler. Pour m'occuper.
Vous avez eu cette chance.
Mais non, mais ça veut dire que c'est aussi la NPE qui m'a... Oui. Mais vous voyez, cette idée que c'est pas linéaire, le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat qui, par exemple, la retraite. On parle tout le temps, on augmente l'âge de la retraite. Moi, je pense que ce serait important de s'occuper de la qualité du travail et de la qualité des conditions de travail. Pour pouvoir, effectivement, à 55 ans ou à 60 ans, je ne vais pas avoir envie d'avoir la même activité.
Mais ce n'est pas exactement ce que dit la Gen Z, justement. On l'a entendu un peu dans le micro-trottoir. On a l'impression d'être face à une génération qui, c'est pas qu'elle veut moins travailler, mais elle veut être plus à cheval sur ses droits. Un horaire, c'est un horaire, etc. Donc, en soi, c'est ce qui se passe un petit peu.
Et être dans une quête de sens aussi à travers leur travail.
Exactement.
Oui. Ils veulent être dans une quête de sens et ils veulent. C'est vrai qu'il y a besoin de confort et de sécurité. Et il y a une précarisation. C'est-à-dire que si jamais vous remplacez des monopoles par juste un marché, te dire que le meilleur gagne, ce qui a été un peu le cas d'une entreprise comme L'Oréal, notamment, qui dit ne mettez pas d'organigramme, pas de fiche de poste. Pourquoi? Parce que, comme ça, c'était une idée de. Les talents vont s'exprimer et puis il y aura. Va émerger les plus. Les gens qui ont le plus de talent, qui créent le plus de valeur, vont se retrouver à des postes plus intéressants et vont prendre le job.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen sans Mathieu Noël, c'est pas mal non plus, c'est moins piquant et surtout c'est moins cher.
Hein.
Lui, il nous coûte un peu d'argent depuis septembre, il faut dire qu'il a 37, bientôt 38, il a demandé un salaire senior dans les médias, il a roulé sa bosse un peu partout, enfin si j'ose dire, jusqu'à ce qui est sans doute l'apothéose d'une carrière de journaliste, animer le Zoom Zoom Test. Bonjour Pierre Courade. En toute sobriété.
Après la famille en or, pyramide, merci Quentin. En revanche, inutile de me flatter parce que comme hier et avant-hier, je serai d'une neutralité absolue. C'est pour cette raison que je suis assis à côté de Manon Mariani, qu'elle peut donc regarder à tout moment les réponses à ce quiz qu'elle gagnera à coup sûr. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Manon a menacé de me lacérer à coups de chaîne de vélo mercredi soir au terme d'un zoom zoom test qu'on pourra qualifier pour Manon de décevant. Pas trop mal, pardon. Cyril Quentin, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est oublier que vous n'avez aucune chance. Allez-y, foncez. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. D'ici là, je vous demande à tous les trois de la discipline et d'écouter les questions jusqu'au bout avant de répondre, car ce quiz concocté par Gérald Darnaud peut raviver des souvenirs douloureux. Préparez le défibrillateur pour Cyril, dont l'ancêtre Gonzague fut défait par les Anglais à la bataille de Ponto Combo, et qui depuis nourrit une allergie à la langue anglaise, lui provoquant des éruptions purulentes dans le sif. Pas étrangère à son échec à l'examen d'entrée au FBI.
The Responsible Corporation. Confessions of a Work Alcoholic, the facts about work addiction. Right, Livelihood Award.
Eh oui, parce que cette semaine. Cyril, c'est vous, c'est bien vous. Cette semaine, après le Walking, le Gender Gap, voici le Quiet Hiring. Notre quiz du jour sera consacré aux questions posées dans les entretiens d'embauche des entités les plus réputées du monde. Le magazine Uzbek Erika parle déjà du Quiet Quizzing. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
On est prêt, on est prêt.
On s'en prend la première question. Écoutez bien la première question.
Ah, il y a des questions quand même, oui.
Bien sûr.
Ouais, c'est bien.
Quentin a mis son costume fétiche, le Célio gris brillant, reflet bleu à l'ançonnet, avec un pantalon slim et des chaussures pointues, imitation croco, un outfit avec lequel il a signé ses plus beaux contrats commerciaux pour les cafés Richard. Grâce à ses compétences en matière de logistique et son goût pour le sport mécanique, il a décroché un entretien chez Amazon pour être livreur. Quelle question classique des recruteurs Amazon à laquelle il doit s'attendre.
Il n'y a pas de sous-métier
mais y a pas de... Non, c'est juste la description avez... qu'il a fait.
Ah oui, vous avez raison. Quentin, Manon, un peu d'attention s'il vous plaît. Quelle est la question classique des recruteurs Amazon à laquelle il doit s'attendre? Réponse A. Qui a gagné la saison 3 de Qui ressort sur Amazon Vidéo? Réponse B.
Ah, c'est pas mal. C'est Jeff... drôle ça. Pardon.
Réponse B. Si Jeff Bezos entre dans votre bureau et vous propose $1 million pour lancer votre idée de business, ce serait quoi? Ou réponse C, donner 3 arguments selon lesquels Amazon est bon pour la planète.
B.
Oh. Eh ben C, moi je veux dire C.
Eh bien c'est B, bonne réponse de Manon Marianne qui n'a pas du tout regardé sur les feuilles, un banger des entretiens chez Amazon. Bien évidemment, Quentin a développé son concept de tasse Lucy Galou qui siffle quand on s'en sert. Le résultat, non, un refus.
Ça siffle pas, ça fait le bruit des cigales.
Oh, mais écoutez, ça siffle. Une cigale, ça siffle.
Ça siffle ?
Oui, résultat, un refus évidemment de la part d'Amazon. J'ai pas de cigale dans les Pyrénées, désolé Quentin. Et vous non plus, du côté d'Alençon. Un refus du côté d'Amazon et évidemment une reconversion dans le journalisme de proximité. Bravo champion !
C'est Pierre qui y parle.
À moi. Si il est retombé sur ses pattes, on sait pas peu comment.
Cyril, Quentin, si vous voulez, on peut arrêter tout de suite ce quiz et je donne la victoire à Manon.
Voilà.
Mais on va quand même poursuivre parce que Gérald Darnault attend sa paye. Si on vous pose la question, choisissez deux célébrités en lieu et place de vos parents. Manon répondra évidemment Andrew Tate et Thaïs Descuffon. Cyril répondra président Chirac et président Sarkozy. Et enfin, Quentin répondra Ayrton Senna et Hélène Gâteau. Mais surtout...
qu'on embrasse Hélène.
Évidemment,
avec
on l'embrasse.
Avec Lionel, bien sûr.
Ou peut-être pas. Mais surtout, dans quelle entreprise serez-vous en train de passer un entretien? Réponse A, Bank of America. Réponse B, Tinder. Ou réponse C, Urban Outfitters.
B,
C.
B. A, Tinder.
Encore une bonne réponse de Manon Mariani. Ouais,
c'est intéressant ça.
C'est trop évident.
Urban
truc.
Outfitters. C'est trop évident, vous vous répondez à côté.
Moi, je suis prêt, bon, au cas où, être un peu alternatif.
Non, mais écoutez,
c'est pas foulé, Gérald. Hein.
Ce qu'il faut pas entendre.
Et,
pas
il garde les bonnes cartouches, je pense que c'est Noël.
Vous êtes joueur.
Enfin bon.
Vous êtes pire que Quentin, c'est fou ça.
On connaissait le management.
Désagréable en plus.
On connaissait votre management dictatorial, on va dire, mais on connaissait pas votre mauvaise foi. Donc réponse C, Urban Outfitters, comme quoi il faut beaucoup d'imagination pour se faire embaucher dans une entreprise qui a commercialisé des tapisseries copiant des tenues des camps de concentration.
Hitler.
Ouais, voilà, bravo Manon.
Ok, super.
Oui, c'est gratuit, mais c'est du Manon Mariani. En revanche, chez Bank of America, que peut-on vous demander à l'embauche? Réponse A, calculer l'angle formé par les deux aiguilles d'une montre lorsqu'il est midi moins le quart. Réponse B, le billet de 1 dollar est-il de droite? Ou réponse C, pourquoi les plaques d'égout sont-elles rondes?
B.
C.
Hop. C'est encore une bonne réponse de Manon Mariani.
Elle triche. Magnifique, je vous jure que je ne triche pas.
Comme tous les jours, Cyril.
Manon Mariani est quand même assez forte, quel que soit le quiz, mis à part sur OSS 117. Effectivement, réponse A, un point bonus si vous me donnez l'angle. Non, je présente, la France nous écoute, inutile de vous ridiculiser davantage. En revanche... Gai savoir oblige, la rondeur des plaques d'égout est un vrai sujet qui mérite d'être développé.
Mais quel enfer!
Vous refusez d'apprendre maintenant, c'est votre choix, je vais le respecter, je ne vais pas le respecter. Tant pis pour le coup de fouet. Merci Manon. Et bien, sachez qu'une plaque carrée.
On a 37 minutes.
Savez-vous pourquoi une plaque est ronde? Une plaque d'égout est ronde?
C'est une vraie question.
Oui, c'est une vraie question.
On peut se rentrer dedans,
non, parce que la plaque carrée ou rectangulaire ou triangulaire ne peut pas offrir les mêmes garanties de sécurité qu'une plaque ronde, car elle peut basculer dans l'orifice par sa diagonale.
Ah,
voilà.
Oui.
Merci Gérald. Terminons en beauté avec les questions disruptives des recruteurs Google en voyage tout en douceur au pays du Quiet Quizzing. Parmi les trois propositions suivantes, là ou lesquelles sont vraiment posées par Google?
Oh là là.
Combien de balles de golf contient un bus scolaire? Combien d'accordeurs de piano y a-t-il dans le monde? Ou quel est le poids de l'Empire State Building?
C. Pardon.
B.
A.
Allez.
Eh bien, à vous trois, vous avez la bonne réponse puisqu'il s'agissait des trois, mais personne ne l'a trouvé. Allez, soyons fous, tentons quand même avec une énigme Google. Voyons qui aura la chance de travailler dans cette entreprise merveilleuse. Écoutez bien, c'est très compliqué.
Faut rendre le micro, Pierre.
Même moi, j'ai mis une heure avant de
l'inviter.
C'est la dernière question. Écoutez bien l'intitulé. la veille d'avant-hier et 3 jours après le samedi. Quel jour ce
matin? Oh non, mais la veille. Vendredi.
La veille d'avant-hier et 3 jours avant mardi. Le samedi. Ah. Et nous sommes le vendredi. Bravo Manon Mariani.
3 jours avant le samedi.
Au hasard. Mais c'était une bonne réponse de Manon Mariani.
3 jours avant le samedi, ça peut jamais être vendredi.
Alors 3 jours. Alors je vous laisserai repasser la bande, vous savez, chez vous avec votre petit transistor. Pierre. C'est bien vendredi et c'est aujourd'hui vendredi. Victoire éclatante Manon Mariani.
Merci. Oh.
Pierre, juste une cigale, ça chante. Ça siffle pas.
Écoutez, on demandera ça à nos amis de Marseille. Là, je ne peux pas.
Très bien. Bon, merci.
On demandera Gérald Darnaud. Hein.
Très bien, merci Pierre Fourade. On continue de zoomer tout de suite sur le Quiet Hiring, un concept de management qui se développe actuellement dans les entreprises. Notre invité Damien Richard, spécialiste du bien-être et de la qualité au travail, a étudié cette question. Damien, vous dites que ce phénomène pose problème quand il est réalisé de manière opaque, qu'aucun mot n'est posé sur ce qui se passe et que les salariés sont mis devant le fait accompli. Ça veut dire qu'on peut demander à un salarié d'accomplir des tâches supplémentaires sans lui laisser le choix.
Quand vous signez un contrat de travail, vous signez vous avez un lien de subordination avec votre employeur. Et effectivement, après, dans les organisations, il y a aussi des syndicats, des gens qui défendent les droits des travailleurs. Il y a un droit du travail, mais il y a ce lien de subordination. Et donc, l'employeur, il peut dire, vous allez, si vous acceptez pas ça,
on ne doit pas non plus dire amen à notre employeur tout le temps.
Non, mais par contre, de faire preuve de souplesse par rapport à une charge de travail, ça fait partie du contrat de travail.
Mais à vous entendre, on a l'impression que l'entreprise et le salarié sont forcément sur un pied d'égalité. Or, il arrive quand même que le salarié soit dans une position, j'aime pas le mot, mais en tout cas l'entreprise soit dans une position de force vis-à-vis du salarié, lui en position un peu plus de faiblesse. Et donc, il n'est pas d'autre choix que d'accepter des demandes qui, a priori, peuvent sortir du cadre de son travail normal.
C'est vrai qu'il y a une asymétrie entre un employeur et un salarié. Mais en même temps, aujourd'hui, on est aussi dans un contexte de guerre des talents. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a vraiment des entreprises qui ont du mal à recruter. Des entreprises publiques, ou des entreprises dans des secteurs en tension, comme l'informatique. Où vraiment, le salarié peut aussi...
Mais c'est pas le cas de tout le monde, ça. C'est pas le cas de tous les secteurs, c'est le cas de quelques secteurs.
Mais même, vous voyez, un boulanger dans un village, ce boulanger-là, il va s'installer dans ce village, il va... Et, ou pas, en fonction des conditions de travail. Un médecin, mais ce n'est pas forcément des hauts postes. C'est-à-dire que c'est aussi se positionner. C'est-à-dire que ce qui va faire que vous vous positionnez... On travaille pour quoi? On travaille pour créer de la valeur, pour être utile à l'organisation, à l'institution, à la communauté de travail dans laquelle on est. Et donc, tout ça ne peut pas être décrété d'en haut de la pyramide par quelqu'un qui aurait l'ensemble des postes, etc. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne dans le public, mais j'ai envie de dire, souvent pour le pire. C'est-à-dire que quand tout est mis dans des cases bureaucratiques, aujourd'hui, ça bloque un peu. Moi, je trouve que c'est ça.
Il faut quand même se dire qu'en 2023, 44% des salariés se disaient en détresse psychologique au travail.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe, Damien Richard? C'est pas si beau que ça.
Non, non, non.
Le monde de l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme.
Le monde de l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme. Et je pense qu'effectivement, le quiet hiring n'est pas la solution. Mais en même temps, cette idée de mettre de la souplesse dans nos processus RH, de mettre aussi de la transparence, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ça ne doit pas être du gaslighting, ça ne doit pas être de l'enfumage, de je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, et je te mets la pression pour que tu le fasses, et tu le fais, et en plus, tu n'auras rien en plus. Ça, vous voyez, et d'ailleurs, une grande entreprise, Auchan, pour ne pas la nommer, a essayé de faire ça avec des caissières en disant, tu vas faire le poste de chef de caisse, on va libérer le travail, on va libérer le... Ben, ça n'a pas du tout marché, parce que les syndicats ont été vent debout, on dit, non, il y a une grosse arnaque.
Ils ont eu raison.
On va supprimer, ont eu raison, parce que, en fait, là, l'intention, c'était de faire suer le burnou valoriser le travail. Et donc, en fait, c'était c'est pas honnête de faire ça, parce qu'en plus les gens n'en ont pas besoin, ils en ont pas envie, ça les met en risque. On peut mettre de la souplesse, mais c'est pas l'anarchie, c'est pas du n'importe quoi, et surtout c'est pas fait dans l'opacité, quoi.
Damien Richard, vous n'êtes pas qu'un professeur, vous êtes aussi un inventeur. Vous avez inventé le Slack. Alors, Jamel, c'est un jeu où on parle de sens, lien, activité, confort. Expliquez-nous ce que c'est ce jeu de manager.
Bah, C'est un jeu de cartes que le professeur Emmanuel Abord de Châtillon, de la chaire Management et Santé au Travail, a fait à partir d'une recherche qu'on a fait ensemble, qui était mon travail doctoral. Et cette idée que, en fait, c'est quoi ce jeu ? C'est un jeu à la fois collaboratif et compétitif, qui permet de discuter du travail, des conditions de travail, à travers ces quatre dimensions que sont le slack, le sens, le lien, l'activité, le confort.
C'est une manière de rendre le travail ludique.
Ouais, mais le jeu dans le travail, est-ce que c'est la place pour jouer ?
C'est un... Alors, Emmanuel Abord-Châtillon, il n'aime pas cette expression, mais c'est un serious game. C'est-à-dire que c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Finalement, les apprentissages les plus importants que vous avez faits dans votre vie, est-ce que ce n'est pas en jouant, en imitant, en discutant ? Et moi, je m'aperçois que j'enseigne beaucoup mieux la QVT avec ce jeu que sans.
Vous écoutez France Inter, il est... Peu importe l'heure qu'il est. Manon, aujourd'hui, celui qui vous a intéressé est à l'origine d'une des révolutions de notre époque.
Je vous présente Reed Hastings. Il a 64 ans, il est américain et il a cofondé la plateforme la plus populaire au monde avec des techniques managériales qui sont bien loin du quiet hiring. Netflix, évidemment, à la base, c'était pas du tout la plateforme de SVOD aux milliers de productions telles qu'on la connaît. Quand il crée Netflix en 1997, c'est un loueur de DVD par correspondance. On paye et hop, on reçoit son DVD magique. La légende raconte que Reed Hastings en aurait eu l'idée après avoir payé $40 pour avoir rendu un DVD en retard chez un loueur de vidéos. Je soupçonne que le loueur en question s'appelait Cyril Lacarrière, qui avait lui-même tenté de lancer son service dans sa jeunesse. Bon. Ça a mieux marché pour Reed Hastings, manifestement. 10 ans plus tard, Netflix se réinvente en service de streaming vidéo, offrant des films et des séries accessibles en ligne. Mais le véritable tournant de la plateforme s'opère en 2013 avec le lancement de sa première série originale House of Cards. Plus qu'un service de streaming, Reed Hastings transforme Netflix en studio de production. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que Reed Hastings est aussi connu pour ses techniques managériales pas comme les autres. Il a toujours prôné une culture d'entreprise axée sur la liberté et la responsabilité, ce qui était assez novateur pour une entreprise aussi importante que Netflix. C'est pour ça qu'il a mis en place des principes tels que l'absence de politique de congé fixe. Autrement dit, chacun pouvait décider par exemple du temps qu'il voulait prendre pour un congé parental. Et puis, il veut une transparence totale sur les salaires et des informations au sein de l'entreprise. Une approche qui vise forcément à attirer et à retenir les meilleurs talents en leur offrant un environnement de travail flexible différent des autres entreprises de la Silicon Valley. Mais cette culture a des limites. Avec la montée en puissance de la concurrence et les défis financiers, Reed Hastings a dû revoir certaines de ses politiques pour maintenir son entreprise à flot. Adieu sa politique de congé parental illimité qui était autrefois emblématique de la culture Netflix. En janvier 2023, Reed Hastings a même changé de poste. Il est devenu président exécutif et ce sont désormais Greg Peters et Ted Sarandos, deux dirigeants historiques de Netflix, qui se partagent le job de directeur généraux. Une transition qui a marqué une nouvelle ère pour l'entreprise. C'est un peu la fin de la récré. Et oui, Netflix n'est plus en pleine expansion, mais l'une des entreprises les plus puissantes du monde.
Merci Manon. Le modèle de Netflix, Damien Richard, est-ce que c'est un bon exemple ? On parlait des congés, on prend ses congés un peu quand on veut. Est-ce que ça, pour vous, ça marche bien ?
Prendre ses congés quand on veut, en fait, quand on fait ça souvent, aux États-Unis ils l'ont fait, les gens prennent moins de congés.
Exactement.
Les gens prennent moins de congés. C'est-à-dire que c'est... De laisser de la liberté, ça va aussi avec la responsabilité. Et en fait, quand vous êtes managé par objectif, vous pouvez prendre tous les congés que vous voulez. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous n'allez pas prendre vos congés.
Mais du coup, ça encourage à travailler toujours plus.
Ouais. Ça encourage le travail.
Bah oui.
Paradoxalement, oui. C'est-à-dire que quand on libère les horaires de travail, on sait que les gens travaillent plus. En télétravail, on s'est aperçu, on a fait des grosses enquêtes sur le télétravail, que les gens travaillaient plus en télétravail. Il y en a peut-être qui regardent Netflix aussi.
C'est ce qu'ils
disaient. Mais statistiquement, ils sont moins interrompus, ils n'ont pas leur chef sur le dos, ils n'ont pas des collègues, et ils travaillent plus. Et aussi, il y a tous les temps, notamment en région parisienne, tous les temps de trajet qui sont vachement réduits.
Ah oui. Ouais.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Est-ce que vous avez bien tous suivi à cette émission ? Est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer le quiet hiring lors d'un prochain dîner en ville ? Si oui, bravo. Sinon, alors, on vous offre une séance de rattrapage et c'est Pierre Courade qui s'en charge. 1 minute chrono, Pierre, c'est à vous.
Ouais, 1 minute, vous êtes optimiste, Cyril. Une fois n'est pas coutume, notre émission a parfaitement illustré le thème que nous avons abordé. D'habitude, on se contente de poser des questions à un invité. Aujourd'hui, on a éprouvé ce que représente le terme en question, le quiet hiring, le recrutement tranquille ou le recrutement silencieux. C'est une nouvelle méthode méthode managériale qui consiste à faire miroiter une promotion qui n'arrive jamais sur sa fiche de paye en tout cas. L'idée c'est qu'un poste se libère, l'employeur, ici le producteur, vous demande de faire vos preuves, vous bossez donc pour deux jusqu'au moment où eh bien, vous remplissez parfaitement vos deux jobs mais sans être payé en fonction et sans que ce soit répercuté sur votre contrat. Cyril, Manon, Quentin, vous êtes dans le quiet hiring. Mathieu Noël, sous prétexte d'une grippe opportune, vous a proposé de le remplacer tout en gardant vos propres chroniques mais sans être payé en plus, désolé de vous l'apprendre. Notre invité Damien Richard, qui n'a rien à voir avec les cafés malgré son dynamisme, Damien Richard, spécialiste du management, nous a expliqué que ce quiet hiring permet surtout aux entreprises, ici la Matthew Christmas Corporation, de faire des économies tout en jouant sur la recherche de sens très demandée par les employés, surtout depuis le Covid. La pandémie a eu pour effet secondaire de produire des quiet quitting, faire le minimum au travail, faire son travail mais que son travail, ce qu'on appelait avant la grève du zèle. À cette tendance, les employeurs se sont dit, on va favoriser ceux qui veulent en faire plus, travailler plus pour gagner pareil, n'en déplaise au président Sarkozy.
Merci Pierre Courat, c'est fou comme parfois 60 secondes, ça peut paraître très long. On avait pourtant utilisé...
Vous l'avez anticipé cette conclusion, alors qu'en fait 60 secondes, ouais, j'ai fait une minute je pense.
Ouais, une minute 20. On avait pourtant utilisé le quiet hiring pour l'embaucher lui, néanmoins sa présence est tout sauf discrète. Bonjour Harold Barbet.
Bonjour mes chers collègues de ZZZ. J'utilise un acronyme étant donné qu'on est dans l'univers des ressources humaines, les RH, et qu'ils utilisent des acronymes pour tout. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que pour la qualité de vie au travail, il fallait maintenant dire la QVT. QVT, quand tu le dis vite, ça fait un peu cuvette, mais avec l'accent mexicain, épée sur la cuvette, eh. Non, on est sur France Inter, ressaisis-toi, il faut relever le niveau. La qualité de vie au travail, la QVT, si chère aux yeux des managers. QVT qui peut vite se transformer en DTC, dans ton cul. Wow. Et c'est un peu comme ça que je vois le quiet hiring à titre personnel, pour en avoir fait les frais. Car même si le quiet hiring peut ressembler à une très belle opportunité de carrière pour les salariés souhaitant évoluer, pour celui qui n'a rien demandé, en revanche, non. Ce qui est très important de comprendre dans le quiet hiring, c'est la notion de quiet. Quand on te refile les tâches d'un autre, tu dois être quiet. Que ça te plaise ou non, pop, tu fermes ta gueule, toi. Ça me rappelle Madame Mogis, ma prof d'anglais en 6e, toujours en train de gueuler, Barbé, quiet. Comme si elle avait une pince à linge dans la gorge, quiet. Quand elle disait plusieurs fois de suite, on aurait dit une mouette qui s'est coincée le prépuce dans une capsule de canette, quiet. Le quiet hiring est aussi une manière de totalement effacer la personne précédente. Tu n'existes plus pour nous. Tu vois ce que tu faisais? On a refilé ça au gars de l'entretien. Comme quoi tu ne servais vraiment à rien ici. T'es qu'une merde. Le quiet hiring n'est jamais une bonne nouvelle. Se faire réattribuer les tâches d'un démissionnaire, c'est un cadeau empoisonné. S'il a démissionné, c'est que justement ce qu'il faisait était devenu insupportable. Imaginez, t'es à table, le gars à côté de toi se lève et se barre car il détestait le plat qu'on lui a servi. Et toi, alors qu'on t'a rien demandé, on te verse ses restes de rognon dans ton assiette. Mais j'en voulais pas moi de rognon. Quiet. Le quiet hiring, c'est comme ces couples relous qui veulent absolument caser leurs amis célibataires ensemble. Dis-moi, cette tâche-là que personne veut faire, et lui là-bas qui n'a pas d'avenir dans l'entreprise, tu trouves pas qu'ils iraient vachement bien tous les deux? Et c'est comme ça que j'ai été la victime d'un quiet hiring. À l'époque, j'ai été engagé comme assistant administratif dans un magasin qui livrait des étuis peignants et des poches à colons pour haut débit. Déjà l'enfer! Et à la base, j'étais là pour la facturation. Plus rapidement, j'ai bénéficié d'une promotion. Responsable du papier toilette de l'agence. Je devais m'assurer que l'agence ne manque jamais de papier toilette. Et quand j'ai demandé, les larmes aux yeux dans un sanglot, « Mais pourquoi moi ?» On m'a répondu que c'est parce que j'avais le bureau le plus près des toilettes. Ce qui, au passage, était assez révélateur de ma place dans l'entreprise. Le bureau à côté de la fenêtre pour les suicidaires, celui à côté des toilettes pour les responsables du PQ. Logique. Donc, le vendredi matin, au lieu d'arriver avec un paquet de croissants dans les bras, j'arrivais avec un paquet de papier toilette. Et là, Bruno, notre livreur, tout en déboutonnant sa salopette, s'exclamait « Ah bah enfin !» avant de s'enfermer dans les WC à côté de mon bureau pendant 20 minutes. Et parfois, il allait se plaindre car c'était pas du double épaisseur et moi, j'étais convoqué. Barbet, vous vous rendez compte que quand on vous a attribué le titre prestigieux de responsable du papier toilette, c'est parce qu'on avait confiance en vous? Ah bah oui, mais moi je veux dire, quoi de Barbet? Cette fois-ci, vous l'avez cherché, baissez votre pantalon, je vous fistfuck. Le quiet hiring dans une entreprise, c'est un peu comme ces mails de grandes marques que tu reçois. Vous avez gagné. Relisez bien les conditions générales avant d'accepter le cadeau.
Merci beaucoup Harold Barbet. On vous retrouve bientôt dans une zone. Gardez votre pantalon. Gardez-le, ici. On est entre gentlemen et gens bien élevés. gardez votre pantalon.
Cyril, vous pleurez de rire.
Ah oui,
notre invité aussi.
Oui, d'ailleurs, Richard aussi. Oui, la promo de Harold Barbet. Bien sûr. On peut vous voir ce soir à Cholet, du 6 au 8 février à Grenoble, au Métropole à Paris et en tournée dans toute la France.
À bientôt. Merci Damien Richard de nous avoir ouvert les yeux sur cette pratique en entreprise. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC et chercheur associé à la chaire management et à santé au travail à l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble. Avec un titre pareil, vous êtes à l'abri du chômage, mon vieux.
Zoom Zoom Zen.